à regarder, si vous avez votre Bible, à regarder avec moi dans le livre du prophète Agée. Le prophète Agée, donc Agée, Zacharie, Malachie, donc ces trois livres avant la fin du Nouveau Testament. Et nous allons lire le premier chapitre, Agée, et nous allons lire au chapitre 1. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agée le prophète à Zorobabel, par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez à la maison, à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur la montagne, sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shéaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et la parole d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé par l'Éternel, dit au peuple: d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius. Voilà, nous allons nous arrêter là dans ce livre qui comporte que deux chapitres, donc vous pouvez lire la suite si vous voulez. Après, c'est relativement en cours. Donc, Agée, on ne sait pas grand-chose de lui, hein, juste qu'il est prophète ici. Donc, ce qu'il écrit, il écrit à peu près en 536 avant notre ère. Hein, et donc, le peuple juif revient de la captivité, après 70 années de captivité à Babylone, il revient avec la mission de reconstruire le temple. Donc, il travaille à peu près pendant 2 ans à la reconstruction du temple, il pose les fondements, il y a une joie, une fête qui est organisée, le peuple est dans la joie, dans la liesse, et aussitôt, après avoir bâti ses fondements, eh bien, arrive la persécution, et donc les travaux sont arrêtés pendant à peu près une durée de 16 ans, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive donc Agée, qui vient de la part de l'Éternel pour parler au peuple et prononcer ces oracles qui sont là. Il y a 4 oracles dans ce livre du prophète Agée. Là, nous avons lu le premier. Et donc, va parler de la part du peuple pour les faire reprendre la construction du temple. Ce qui est, je voulais souligner juste ce soir, c'est cette phrase qui revient 5 fois dans le livre, qu'on a trouvé ici au chapitre au verset 5 du chapitre 1 déjà, considérez attentivement vos voies. On le retrouve encore au chapitre, au verset 7, considérez attentivement vos voies. Et puis au chapitre 2, verset 15, il est dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Et au verset 18, deux fois, il est dit au début du verset 18, considérez attentivement ce qui s'est passé ce jour. Et à la fin encore, considérez-le attentivement. Donc on pourrait dire que l'exhortation principale du livre, hein, c'est un appel de la part de Dieu au peuple à considérer attentivement ses voies. Et c'est ce que je veux juste souligner ce soir ensemble. Premièrement, que Dieu appelle le peuple à considérer vraiment son relâchement dans l'œuvre. Regardez le verset 2 et 4, il dit ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Voilà la raison pour laquelle Dieu envoie son prophète, c'est parce que son peuple s'est relâché dans la reconstruction du temple, dans l'œuvre dans laquelle il était engagé. Donc le peuple se relâche en avançant des excuses. Alors certainement, il y avait de la persécution, certainement c'est à cause de cela peut-être qu'ils ont arrêté, mais ils disent, en tout cas c'est ce que Dieu rapporte lui-même, ils disent le temps n'est pas venu, le temps n'est pas propice, le temps n'est pas favorable. Et donc ce n'est pas un refus catégorique de rebâtir la maison de l'Éternel, mais c'est une estimation de leur part que les conditions ne sont pas réunies pour que la reprise de la, pour la reprise de la construction. Et donc, et Dieu entend cela et nous remarquons que Dieu ne dit rien des oppositions qu'ils ont eues, mais souligne la pensée du peuple. Il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et c'est souvent le temps, n'est-ce pas, qui est responsable parfois de tous nos manquements. Hein. Nous manquons de temps, pas le temps n'est pas venu, nous disons parfois pour témoigner, ce n'est pas le temps favorable, il faut attendre que les circonstances soient meilleures que cela. Le temps n'est pas venu de se donner à l'œuvre du Seigneur, ni de donner parfois hein, dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'il y a des contraintes. Je construis ma maison, hein, et donc je ne peux pas faire les deux. Quoi, hein. Parfois aussi, le temps n'est pas venu, disons-nous, de participer à telle ou telle rencontre, parce que c'est le moment où on a des examens, des études, et donc on ne peut pas vraiment se donner dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu, vous voyez, s'il n'entend pas, je vois ici toutes les circonstances que le peuple pourrait avancer, il entend ce que le peuple dit. Il dit, le temps n'est pas venu pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est retenu ici. On peut voir aussi que le peuple se relâche, donc dans ce relâchement, parce qu'il a renversé les priorités. Est-ce le temps, verset 4, pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et au verset 9, Dieu dit, à cause, pourquoi toutes ces choses sont comme cela? Il dit, à cause de ma maison est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Et ces versets mettent en évidence vraiment l'attitude du peuple. Le temps qu'ils avaient jugé non favorable pour Dieu était devenu un temps favorable pour leurs propres affaires. Dieu dit, est-ce le temps pour vous? Ils ont pris le temps pour eux. Alors, c'est souvent comme cela que ça se passe, n'est-ce pas? Le temps que l'on enlève hein, à l'œuvre de Dieu ici, eh bien, on le met souvent à notre propre profit ici. Le peuple avait trouvé le temps d'embellir sa maison et même le texte dit qu'ils se sont empressés de le faire. Hein. Chacun s'empresse pour sa propre maison. Et notre société actuel nous dit que nous avons besoin de prendre du temps pour nous, n'est-ce pas? Apprendre à prendre du temps pour soi. Il faut penser à soi, se faire plaisir pour être heureux, apprendre à s'aimer, d'accord? Et peut-être on n'a pas assez d'estime de soi, mais la Bible dit que nul n'a jamais haï sa propre chair. Hein? Donc il est donc inutile de faire tant d'efforts pour s'aimer, pour s'accepter, parce que de toute façon c'est ce qu'on fait déjà naturellement. Et donc ici, il ne faut pas faire attention à ne pas renverser les priorités, c'est ce que le peuple a fait. Hein. Il a pris le temps pour lui et il a dit que ce temps n'était pas favorable pour Dieu. Donc Dieu appelle, on pourrait dire premièrement le peuple à considérer ce relâchement qu'il a dans l'œuvre. Deuxièmement, il appelle à considérer ses espérances déçues. Regardez comment il est dit au verset 6 et 9. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud, et le salaire de celui qui est à gage est tombé dans un sac percé. Il vous comptait sur beaucoup et vous avez peu. Et le contraste qui est établi ici, c'est le contraste entre l'investissement qu'ils ont mis dans toutes ces choses et l'espérance qui n'est pas au rendez-vous. Ils espéraient que ces choses allaient leur apporter probablement le bonheur. Alors, je ne crois pas qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ont eu faim, qu'ils n'ont pas bu, qu'ils n'ont pas pu boire ou qu'ils n'ont pas pu se vêtir. Dans le texte que j'ai lu, il est dit ici, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Je crois que l'idée ici, c'est que malgré qu'ils aient fait toutes ces choses, ils n'ont pas la satisfaction qu'ils attendaient. Ils ne tirent pas le bonheur qu'ils espéraient tirer. Et ça peut nous arriver aussi à nous, n'est-ce pas? Parfois, nous pensons que telle chose ou telle autre chose va nous apporter du bonheur. Donc, parfois, on veut habiter dans telle ville, on veut tel travail, on veut tel type de maison, tel type de téléphone, etc. Et on pense que ces choses vont peut-être nous donner une part de satisfaction. Et on reconnaît que finalement, on reste vide. Hein. On prend du temps pour soi, pour faire beaucoup de choses, pour arriver à un examen ou à quelque chose. Et puis finalement, une fois ces choses-là, eh bien, on n'en est pas forcément satisfait. Donc Dieu appelle le peuple à considérer que son cœur n'est pas satisfait par ces choses-là, ses espérances déçues. Et puis troisièmement, Dieu appelle le peuple aussi à considérer la raison de cet état d'insatisfaction. Regardez ce qu'il dit au verset 9, il dit « Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. » Et il donne la raison ici. Il dit « Pourquoi ?» Il pose la question même. « Pourquoi les choses sont-elles ainsi ?» Il dit « Bien, à cause de ma maison qui est détruite et vous qui vous empressez pour votre propre maison. Vous n'avez pas obéi au commandement que vous avez eu. N'oubliez pas qu'ils étaient venus là pour reconstruire le temple. » Et il dit, voilà, vous avez abandonné cela et maintenant vous vous êtes tous investis dans vos propres affaires. Vous avez désobéi. Hein? Vous avez désobéi, autrement dit. Donc là, il montre que la raison de leur insatisfaction, c'est la désobéissance. La désobéissance produit l'insatisfaction, même au milieu des choses que l'on peut avoir. Hein? Rappelez-vous ce que le psalmiste dit au psaume 106, verset 15. Il parle du peuple d'Israël, de leur pérégrination dans le désert, et il dit que Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il envoya le dépérissement dans leur corps. Et ils étaient au milieu de toute cette viande qu'ils voulaient manger, de tout ce qu'ils voulaient, mais en même temps, ils étaient insatisfaits dans leur âme parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et donc, parfois, on peut chercher des choses, avoir ceci ou cela, et on l'obtient. Dieu permet même qu'on l'obtienne, mais au prix d'une insatisfaction qui demeure dans le cœur. Parce que pour ce peuple en particulier, Dieu leur avait déjà dit par l'intermédiaire de Moïse, rappelez-vous, dans le Deutéronome, chapitre 28, les conditions de l'alliance qu'il entretenait avec eux. S'ils obéissaient, il y avait des bénédictions qui allaient suivre. Mais s'ils désobéissaient, il y aurait des malédictions. Et je vous lis ce qui est dit au verset 15 et 38 de Deutéronome 28. Il est dit, « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et verset 38, il dit, « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. » C'était une des malédictions que Dieu avait prononcées sur le peuple. Tu vas semer et tu vas récolter peu. C'est exactement ce qu'on trouve ici dans le livre du prophète Malachi. Donc Dieu appelle le peuple à considérer vraiment la raison de l'insatisfaction. C'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et puis il y a aussi un appel à considérer la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il dit, regardez au verset 9, Il dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et au verset 11, il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, pourrait dire sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur tout. Hein. Et donc Dieu dit, c'est moi qui ai fait ces choses. Et l'homme moderne a une réponse toute scientifique en général pour les choses, n'est-ce pas? On a une réponse à tout. Hein. Le manque d'argent qui est peut-être une mauvaise gestion, la sécheresse qui est passée par là, le réchauffement climatique ou le cataclysme par ici, par là. Et on a des réponses scientifiques pour tout. Hein. Mais Dieu dit ici, oui, c'est vrai qu'il y a eu la sécheresse, il y a eu les conditions climatiques exécrables, mais Dieu dit, c'est moi qui ai fait ça. Il dit, j'ai soufflé dessus, sur ce que vous avez mis de côté. Il dit, et même c'est moi qui ai appelé la sécheresse sur le pays. Donc la réflexion à laquelle Dieu appelle le peuple ici consiste à ne pas rattacher les difficultés à des phénomènes extérieurs. Les phénomènes sont peut-être les instruments de ces difficultés-là, mais il faut regarder à celui qui est au-dessus. Hein. C'est ce que j'ai pas, je pense à ce verset maintenant, mais je crois que c'est le prophète Ésaïe, hein, où Dieu dit au peuple, vous regardez à la calamité, hein, mais sans regarder à celui qui fait la calamité. Vous arrêtez à la difficulté sans regarder à celui qui permet la difficulté. C'est un petit peu la même chose que Dieu dit ici par l'intermédiaire du prophète Agée au peuple. Et donc les versets 10 et 11 ici sont impressionnants. Il dit que les cieux et la terre sont entre les mains de Dieu et ils lui obéissent au droit et à l'œil. Il agit comme il veut sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur le rendement de la terre, sur les hommes, sur les bêtes, sur le travail de la main des hommes. Quoi qu'on fasse ou qu'on regarde, on est confronté vraiment à cette souveraineté de Dieu. C'est à la fois encourageant et c'est effrayant. Hein. N'est-ce pas? Néhémie pouvait dire, la bonne main de mon Dieu est sur moi, hein, dans tout le projet qu'il avait. Et puis Naomi, quand elle revient après l'exil au pays de Moab, elle dit, la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Hein? Donc on voit deux manières différentes, mais dans les deux cas, c'est la souveraineté de Dieu. Donc on a beau faire des efforts pour semer, pour épargner, pour construire, pour avoir le meilleur système de santé qui soit, mais rien n'est hors de la portée de Dieu. Dieu peut faire que les vêtements et les souliers ne s'usent point, comme il a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Dieu peut faire que le peu d'huile, le peu de farine dans le pot ne manque jamais et que le peu d'huile dans la cruche ne diminue pas, comme il a fait pour la veuve de Sarepta. Mais il peut aussi faire disparaître le peu que l'on a ramassé, comme ici avec le peuple en retour d'exil. Il peut retenir la rosée des cieux en haut et appeler la sécheresse aussi en bas. Donc il ne faut pas compter sur la force de son bras, sa capacité de gestion, son talent agricole, mais sur la souveraineté de Dieu qui change le désert en étang et la terre en aride en source d'eau, nous dit le psaume 107, verset 35. Et donc je crois que Dieu appelle aussi le peuple, quand il dit considérer les choses, il appelle le peuple à cette considération de sa souveraineté. Et puis je termine en disant aussi que Dieu appelle le peuple à la repentance. Donc, à considérer ses voies, mais considérer ses voies, pas pour juste les considérer, mais pour revenir à lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 8. Il dit, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et au chapitre 2, au verset 4, il dit, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué et Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Donc il y a ici un appel à la repentance et un appel à agir à la gloire de Dieu. Vous voyez cela ici, il dit, j'en aurai du plaisir, dit Dieu, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié. Le plaisir de Dieu est ce que l'on doit rechercher. Ce n'est pas tant la maison en tant qu'agencement de pierre qui plaît à Dieu, mais c'est l'obéissance. Hein. Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance à sa parole, comme on peut lire dans 1 Samuel chapitre 15. Et puis aussi, Dieu dit qu'il sera glorifié. Hein. Dieu est glorifié lorsque son peuple marche dans l'obéissance et porte du fruit. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et on voit ici que Dieu promet même sa présence au peuple. Donc le but de cette introspection, si on pourrait dire, ce n'est pas simplement pour réprimander le peuple et qu'ils sachent simplement qui a fait ceci, qui a fait cela et comment eux, ils ont été désobéissants, mais c'est pour amener le peuple encore à nouveau dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu et dans sa présence. Et Dieu dit, je serai avec vous. Et il le dit ici au verset chapitre 2, verset 4 que nous avons lu, car je serai avec vous, dit l'Éternel des armées. Dieu ne laisse pas le peuple sans défense pour le travail, mais il promet qu'il sera avec eux dans ce qu'il leur demande d'accomplir. Et cela nous rappelle vraiment, n'est-ce pas, la promesse de Jésus, que Jésus a fait à ses disciples en partant, et par extension que Jésus a fait aussi à l'Église, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ici? Il est important pour l'enfant de Dieu de réfléchir à tout ce qui se passe dans sa vie. Les circonstances que nous venons de traverser, que nous sommes en train de traverser, sanitaires que nous sommes en train de traverser, doivent nous amener aussi à la réflexion. Quand nous sommes malades, cela doit nous amener à la réflexion. Et on doit se poser, comme on le voit ici avec le prophète âgé, le pourquoi de ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi ne suis-je pas satisfait? Pourquoi de nos propres insatisfactions? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas plus d'intérêt dans le culte? Pourquoi est-ce que il me semble ne rien recevoir de ce que j'entends? Et la réflexion, voyez, à laquelle Dieu pousse le peuple, ce n'est pas une réflexion sur les circonstances elles-mêmes, mais c'est une introspection, c'est une réflexion sur notre propre état, l'état de notre propre cœur. C'est souvent là que nous devons aller chercher les raisons. Et donc, que le Seigneur nous aide à mettre cela en pratique, à considérer attentivement ses voies dans tout ce que nous faisons et à revenir à lui. Quand il nous permet de passer par des situations particulières, c'est pour que nous puissions savoir, arrêter et sachez que je suis Dieu, qu'il est Dieu et qu'il agit, qu'il est souverain, qu'il gouverne sur toutes choses et voir où en est notre attitude vis-à-vis de notre cœur, vis-à-vis de lui, à revenir à lui dans la repentance, à le servir. Et la Bible dit que, eh bien, il sera glorifié, il en aura de la joie et nous aussi, nous allons pouvoir vivre dans cette communion, dans cette présence avec notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, travaillons à l'œuvre de Dieu, ne nous décourageons pas. Et si, voilà, nous trouvons que les choses ne vont pas, eh bien, relisons ce premier chapitre du prophète Malachie et que cela nous encourage à considérer attentivement nos voies. Très bien. Le prophète âgé, et cela nous aidera à considérer attentivement nos voies. Nous allons donc prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, pour ce texte qui nous interpelle parce que nous n'avons pas changé. Nous reconnaissons cet intérêt dans notre propre époque pour, et encore peut-être plus, pour le confort matériel et pour des choses qui peuvent nous détourner de l'œuvre que l'on doit accomplir, de ton œuvre. Et je te prie que tu parles à nos cœurs par ton esprit, que tu nous rendes sensibles à notre propre vie. Délivre-nous d'une attitude passive dans notre vie, délivre-nous d'une attitude médiocre dans notre vie. Donne-nous de toujours considérer notre marche avec toi, Seigneur, de nous poser les bonnes questions, de faire comme il est dit ici, de nous examiner comme ta parole nous le commande, de rechercher ce qui est bon, ce qui est parfait, de rejeter ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, aide-nous dans cette marche et peut-être même dans ces temps particuliers que nous vivons pour revenir à toi. Et Seigneur, nous remettre à nouveau aussi, comme ce peuple, à la tâche. Réveille notre esprit, comme tu l'as fait pour Josué, pour Zorobabel et pour tout le reste du peuple, afin que nous te servions d'une manière qui te plaise et qui te glorifie, et pour la gloire de ton nom. Amen.